9h à Washington et à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie sur le continent américain avec à la une l'organisation des obsèques du pape François dont la disparition a beaucoup ému à Port-au-Prince. Vous l'entendrez dans quelques minutes et nous serons en ligne avec le directeur de l'agence Alter Press pour parler de la situation dans le pays. Nous appellerons aussi notre envoyé spécial aux États-Unis pour parler cette fois de l'offensive de l'administration Trump contre les universités américaines, universités qui dénoncent aujourd'hui une ingérence sans précédent de la part du gouvernement. Notre dossier du jour nous emmènera au Pérou où une loi inquiète beaucoup les ONG. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer françaises avec vous, Benoît Ferrand. Vous nous parlerez du taux d'homicide en Guadeloupe, juste derrière la Guyane. 9,4 pour 100 000 habitants, très très loin devant la France métropolitaine.
Une réalité qui en cache une autre, tout aussi effrayante, le nombre de blessés par arme à feu ou arme blanche en Guadeloupe. Précision à suivre.
À tout à l'heure. Et avant tout cela, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
On connaît donc maintenant la date des obsèques du pape François.
Oui, ce sera samedi 26 avril à 10h du matin. La date a été arrêtée par les cardinaux réunis ce matin en assemblée. Ces mêmes cardinaux qui, dans quelques jours, se retrouveront en conclave pour élire le successeur de François, mort hier matin à l'âge de 88 ans. Samedi, de nombreuses personnalités politiques, dirigeants et têtes couronnées assisteront aux funérailles. Parmi les derniers ayant annoncé leur présence, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le roi et la reine d'Espagne. Direction maintenant le Mexique, pays qui entretenait une relation particulière avec François, premier pape latino-américain. Il avait effectué une visite au Mexique en 2016 et il était resté écouté sur les thèmes de la sécurité, des droits des femmes ou bien encore de la crise migratoire. Reportage à Mexico dans la célèbre basilique de la Guadalupe de Gwendolina Duval.
Devant l'immense statue en bronze de Jean-Paul II, dans l'enceinte de la basilique, des ouvriers installent un autel pour honorer le pape François. Quelques fidèles, comme Cristina Castro, prennent des photos et installent des bougies.
Je me rappelle quand il est venu ici, dans cette basilique. Il a laissé une empreinte très belle, car il était un bon pape, uni à beaucoup de nations.
Toute la journée, la célèbre basilique enchaîne une quinzaine de messes pour accueillir les croyants venus en nombre. Dominicia et Oscar Juarez ont fait près de 1000 km depuis la frontière nord du Mexique.
On vient de Reynosa.
On a fait plus de 12 heures en bus pour venir ici. On a fait une nuit blanche, on est bien fatigué, mais on est là et on va aller à la messe.
On est vraiment triste pour le pape.
La verdad que sí. Y nos animamos y me traje a mi hijo.
C'est vrai, donc on s'est motivé pour venir. J'ai ramené mon fils. Même fatigué, on va prier pour notre pape bien-aimé. Il s'est beaucoup battu pour les droits des migrants, encore plus en ce moment que le gouvernement les abandonne. Nous le voyons car nous vivons à 10 minutes de la frontière. Je ne sais pas qui sera le prochain pape, mais véritablement, j'aimerais qu'il ait la même vocation et qu'il soutienne cette cause.
Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
À l'image de celle de la Chine qui ce matin a présenté ses condoléances, les réactions continuent d'affluer, certes moins qu'hier. Il est des lieux pourtant où l'évocation du pape François ne soulève pas d'enthousiasme particulier. C'est le cas à Jérusalem. Le pape avait souvent pris position en dénonçant la situation humanitaire dramatique à Gaza. Son souvenir semble créer une certaine indifférence, voire de l'hostilité chez les juifs qu'Amira Swilem a rencontrés ce matin dans la vieille ville.
La vieille ville de Jérusalem sommeille encore un peu et la famille Oussadon a décidé de profiter de ces rares moments de calme pour se lancer dans une promenade. Le pape est mort, oui, mais que dire de lui ? Gabriel, le père de famille, prend quelques instants pour y réfléchir.
La mort du pape, c'est une perte immense en fait pour les chrétiens et donc je pense que les chrétiens ici de Jérusalem prient pour l'élévation de son âme et que son message ne soit pas oublié. Chaque autorité religieuse s'inquiète pour le sort des humains, des Palestiniens, comme on s'inquiéterait aussi du sort des otages ou des victimes israéliennes, en fait, simplement.
De l'inspiration, les Israéliens croisés ce matin ont manqué pour parler du pape.
Shalom, shalom. Salut,
shalom. La mort du pape, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il y a beaucoup à dire. On ne peut pas commencer parce qu'on finit jamais.
Dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, David, un guide touristique, accompagne un groupe venu de Suisse. Adossé à une porte de la ville, recouverte de portraits d'otages israéliens, lui accepte de dire franchement ce qu'il pensait du pape François.
Je crois que le grand âge peut être quelque chose de terrible. Certains deviennent séniles. Le pape a parlé de Mahmoud Abbas en disant que c'était un ange de la paix. Je crois que son désir de paix l'a aveuglé.
Comme leurs voisins palestiniens en tout cas, les Israéliens guetteront de près la désignation du nouveau pape. Amira Suilem, Jérusalem, RFI.
Le Pakistan a lancé il y a 3 semaines une campagne massive d'expulsion de migrants afghans. Selon Islamabad, ils sont maintenant plus de 100 000, en majorité des enfants, à avoir quitté le Pakistan. Le gouvernement pakistanais accuse les 3 millions d'Afghans vivant sur leur sol d'être liés au terrorisme et au narcotrafic.
Aux États-Unis, un procès qui pourrait aboutir au démantèlement de Google.
Oui, le géant de la tech comparé devant un tribunal de Washington pour abus de position dominante. Déjà reconnu coupable l'an dernier dans un autre procès pour les mêmes faits, Google pourrait cette fois être obligé de vendre son navigateur Google Chrome. Les auditions mettent en lumière les pratiques du géant de la Silicon Valley. Partout, il cherche à imposer son monopole, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nicolas Feldman.
Pour la justice américaine, cela ne fait quasiment plus aucun doute. Avec son navigateur Google Chrome, le géant de la tech a mis en place un monopole, une position dominante contraire à la loi qui nuit à la concurrence et à l'innovation. À ce titre, Google pourrait donc être contraint de se séparer de Google Chrome. Mais à la barre, les premiers témoignages laissent entendre que le géant américain aurait étendu son monopole à d'autres secteurs dans le viseur de la justice, l'intelligence artificielle. D'après un cadre de l'entreprise, Google aurait ainsi passé un contrat avec Samsung. Le but, faire installer son application d'intelligence artificielle Gemini AI sur tous les smartphones du constructeur sud-coréen. Des pratiques là aussi contraire à la loi et qui, pour l'accusation, entrave l'innovation et le développement de l'intelligence artificielle. Ces prochains jours, des concurrents de Google dans l'IA, OpenAI ou Perplexity, sont appelés à témoigner au procès.
Nicolas Feldman, après la trêve pascale reprise dans la douleur à la bourse en pleine guerre commerciale mondiale, les bourses européennes étaient en baisse ce matin sur fond d'inquiétude devant les attaques de Donald Trump contre Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine.
En France, le procès de Joël Le Scouarnec se poursuit devant la cour criminelle du Morbihan dans l'ouest du pays.
L'ancien chirurgien est jugé pour près de 300 faits d'agression sexuelle. Des associations ont manifesté aujourd'hui à Vannes en Bretagne et à Paris devant le Conseil de l'Ordre des médecins pour porter la voix des victimes. Dès 2006, des médecins avaient alerté leurs autorités, mais sans être entendus. Parmi les manifestants, Delphine, membre du collectif enfantiste, elle est au micro d'Aram Beng.
On est là pour soutenir les victimes, soutenir leurs paroles. Il y a des enfants qui avaient parlé à l'époque et qui n'avaient pas été écoutés. Donc on est vraiment là pour porter cette parole. Malgré une condamnation, malgré des alertes qui avaient été faites par des collègues, rien n'a été mis en place autour de cet homme. Chirurgien, oui, et qui a abusé de sa position d'adulte, qui a abusé de sa position de blouse blanche et qui a fait un nombre de victimes hallucinant. Ce qu'on demande, c'est la fin de l'impunité médicale, que quand il y ait des violences sexuelles sur mineurs, ça entraîne immédiatement une radiation de l'ordre des médecins. Il faut qu'il y ait une formation obligatoire dans la formation des médecins pour prévenir et détecter les violences sexuelles dans le cursus de cette formation des médecins. Et aussi, évidemment, une reconnaissance des victimes prescrites, parce que c'est trop dur de ne pas reconnaître leur souffrance et leur parcours simplement parce que les faits ont été prescrits.
Une membre du collectif enfantiste. Il est pratiquement 15h09 ici à Paris. Très bonne journée sur RFI. RFI Midi tout de suite, suite et fin avec vous Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. On va prendre d'abord la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, où l'annonce de la mort du pape a suscité de vives réactions. Prêtres et leaders religieux ont dit leur peine hier, vanté un homme présenté comme très attentif aux souffrances des plus faibles. Attentif aussi au sort d'Haïti. Reportage, Peterson Luxama.
C'est une nouvelle qui a secoué la communauté catholique en Haïti. Fidèles, leaders religieux, tous se disent choqués à l'image du père Marc-Henri Siméon, porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti.
J'ai appris la nouvelle avec la tristesse de savoir que cette figure qui nous a marqué pendant 12 ans de pontificat nous a enfin laissé. Mais en même temps, j'ai appris cette nouvelle avec espérance chrétienne. Lorsque je sais que le pape est parti vers la maison du père le lundi de Pâques.
Une émotion partagée par le prêtre Brière-Aupont qui souligne l'attachement du pape émérite à Haïti. Pour lui, le pays a perdu plus qu'un chef spirituel, il a perdu un ami fidèle et un soutien.
Haïti vient de perdre un défenseur de poids devant les puissances internationales. C'est quelqu'un qui plaide toujours en faveur du pays et c'est quelqu'un qui intercède toujours pour nous, comme s'il nous connaissait, comme s'il sait ce que nous vivons.
Un avis partagé par Père Marc-Henri Siméon. Il insiste sur la compassion et la solidarité constante du pape François envers le peuple haïtien.
Le pape François, il a exprimé à chaque fois sa proximité envers Haïti lors d'événements douloureux, lors d'événements marquants qui ont traversé notre histoire.
Et c'est le même son de cloche du côté du gouvernement haïtien qui a aussi salué le départ d'un ami fidèle qui a porté Haïti dans sa prière et dans son cœur. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
On reste en Haïti. Nous sommes en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Vous affichez en une aujourd'hui cette prédiction alarmante. Plus de la moitié de la population, c'est-à-dire 5 700 000 personnes, devraient se trouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë en juin prochain.
Oui, c'est la Coordination nationale de la sécurité alimentaire dans son dernier rapport qui le dit. 5,7 millions de personnes devraient souffrir gravement de manque d'alimentation. Parmi elles, un peu plus de 2 millions de personnes devraient être confrontées à une situation d'urgence alimentaire, sans compter 8 400 autres en situation de catastrophe, c'est-à-dire un risque de famine. De son côté, le Programme alimentaire mondial, organisme de l'ONU, signale que cette situation est due à la montée des actes de violence armée qui a entraîné des déplacements massifs de personnes et une aggravation de la faim.
Et dans ce contexte catastrophique, alors que les violences des gangs sont toujours quotidiennes, votre agence publie une tribune adressée au président du Conseil de transition et au Premier ministre.
L'accent est mis sur le fait que dans plusieurs communautés qu'ils occupent, les gangs ont commencé à jouer le rôle d'agents publics. Ils tentent de remplacer l'État et créer, par exemple, leur propre prison, se font juge ou essayent d'effectuer le contrôle de la circulation. Ils ne se contentent plus d'occuper, ils gouvernent, lit-on dans cet article. Ils terrorisent, brûlent une partie et en gèrent une autre selon leurs intérêts et leurs sympathies. C'est un appel lancé au président du CPT et au Premier ministre pour souligner l'urgence de la situation et qu'ils doivent cesser de jouer avec le feu pour ne pas atteindre un point de non-retour.
On peut lire dans cette tribune que tout processus comporte un point de non-retour et c'est justement ce que craignent aussi les Nations Unies.
Avertissement de la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies, Maria Isabel Salvador, lors d'un débat public sur Haïti hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, la terreur et d'autres violences des gangs armés s'étendent de nouvelles zones à de nouvelles zones sur le territoire national. C'est ce que constate Maria Isabel Salvador. Tout retard dans le soutien de la communauté internationale pourrait détériorer davantage la situation en Haïti, ce qui risque de plonger le pays dans le chaos total. Et elle exhorte les États membres de l'ONU à rester engagés et à répondre aux besoins urgents du pays et de sa population.
Merci Godson Pierre. On vous retrouve la semaine prochaine sur cette antenne et d'ici là sur le site alterpress.org.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
On va dire un mot encore du pape François, c'est à la une de votre revue de presse, Vincent Souriau. Un mot de l'écho de son pontificat à Miami, aux États-Unis.
Oui, avec cet hommage du Miami Herald, le grand quotidien pro-démocrate de Floride, dans un article signé de son comité éditorial, le pape François a touché du doigt deux thèmes majeurs qui résonnent à Miami. Il a d'abord placé le climat sur le devant de la scène catholique, en soulignant que la dégradation de la planète touchait en premier lieu les plus pauvres. Dans un endroit tel que la Floride, souligne le Miami Herald, en première ligne face aux impacts de la crise climatique, aux inondations, aux ouragans, son appel a pris tout son sens. Et il s'est aussi emparé de la défense des migrants, remarque l'archevêque de Miami, Thomas Owensky, ne s'est jamais lassé de plaider pour eux, pour les marginaux, pour les exclus. Or, ce message compte ici dans un état, la Floride, où de très nombreuses familles se sont forgées à travers l'expérience de l'immigration. François conclut le Miami Herald, nous a montré que l'Église ne devait pas être une forteresse où l'on se cache, mais un hôpital de campagne où chacun doit se mettre au service de son prochain.
On reste aux États-Unis, où des dizaines d'universités dénoncent une ingérence sans précédent de la part du gouvernement, une interférence politique de la part de l'administration Trump. Parmi les signataires, on trouve notamment les prestigieuses universités de Yale, Brown, Princeton et Harvard. Harvard menacée par l'équipe du nouveau président, Donald Trump pourrait suspendre les subventions allouées à l'établissement qui s'élève à 2 milliards de dollars. Nathanaël Vitran, vous êtes notre envoyé spécial au Texas. Quel est l'état d'esprit dans les universités en ce moment ?
Écoutez, le mot que j'ai le plus entendu depuis que je suis arrivé ici, c'est le mot peur, et particulièrement dans le contexte des universités. Il y a d'abord évidemment les étudiants internationaux qui ont peur, comme c'est déjà arrivé à des milliers d'entre eux aux États-Unis et à plusieurs centaines ici au Texas, de voir leur visa révoqué pour des raisons parfois obscures, une infraction au code de la route, ou bien pour avoir exprimé une opinion qui déplaît à l'administration américaine. Écoutez Sophia, une étudiante pakistanaise rencontrée lors de manifestations anti-Trump à Austin.
Les étudiants impliqués dans les mouvements pro-palestiniens sont devenus une cible. Les services migratoires les enlèvent et les font disparaître. Une de mes amies a vu son visa révoqué et a été condamnée à ce que je qualifierais d'exil politique.
Et comme me l'a confirmé Matthew Thompson, un avocat de Houston spécialisé dans le droit à l'immigration, même les profs ont peur.
Le monde académique est en panique. Des gens qui, en théorie, n'ont aucune raison d'être inquiets, qui ont le statut de résident permanent, n'osent plus voyager, même pour assister à une conférence à l'étranger, de peur qu'on ne les laisse parvenir.
Et les citoyens américains dans le monde universitaire, comment est-ce qu'ils vivent la situation ?
Écoutez, depuis que l'administration a interdit certains mots, certains sujets, règne ce qu'il faut bien qualifier de censure. Sophia Alvarado, étudiante en journalisme à Austin, l'a déjà constaté.
J'écrivais un article sur les feux de forêt au Texas et je suis tombée sur une étude scientifique qui mentionnait le lien entre le réchauffement climatique et les feux de forêt. Mais quand j'ai contacté l'auteur, j'ai eu la surprise de l'entendre me répondre que dans le contexte politique actuel, elle n'avait pas le droit d'en parler.
Une situation qui inquiète John Schwartz, il est son professeur.
Des sources qui refusent de parler, ça arrive tout le temps. Mais là, ce ne sont pas des gens qui disent « je n'ai pas envie de vous parler », ce sont des gens qui disent « je ne peux pas vous parler, j'ai peur de vous parler ».
Malgré tout, lui veut rester optimiste.
George Orwell a écrit 1984
comme un avertissement. Mais il y a des gens dans cette administration qui semblent s'en servir comme d'un manuel. Ils n'aiment pas le monde universitaire. Ils rêvent de le transformer en outil de propagande conservateur. On a vu beaucoup de gens et d'institutions mettre le genou à terre, mais heureusement, il y a aussi un mouvement de résistance face à cette tentative de changer notre culture. J'espère que d'autres universités suivront l'exemple d'Harvard.
Voilà, la peur n'a pas disparu, mais elle s'accompagne désormais sur les campus d'une volonté de résister.
Nathanaël Vitran, envoyé spécial au Texas. Voilà la charge de l'administration Trump contre les universités. Il y a un autre dossier phare pour la nouvelle équipe au pouvoir aux États-Unis. À lire aussi dans votre revue de presse, Vincent Souriau, ce dossier, c'est la répression migratoire.
Sur ce thème, les élus démocrates se mobilisent. Enfin, pourrait-on dire, quatre d'entre eux, issus de la Chambre des représentants, sont arrivés au Salvador hier afin de mettre en lumière les failles des mesures d'urgence décrétées par le président américain. C'est toujours le cas d'un seul homme qui mobilise l'attention, Kilmar Abrego Garcia, expulsé le mois dernier. Malgré une décision de justice en sa faveur, l'opposition démocrate veut faire de son histoire un exemple de ces procédures bâclées par l'administration Trump et demande son retour immédiat aux États-Unis. Dans le Washington Post, ces démocrates parlent d'une crise constitutionnelle, d'une opération, je cite, de kidnapping financée par le gouvernement, arrestation, emprisonnement, expulsion à rebours de l'état de droit et d'un président, je cite toujours les démocrates, qui ignorent sciemment l'injonction de la Cour suprême.
Alors, question à 1 million de dollars, Kilmar Abrego Garcia a-t-il été, est-il encore membre du MS-13 ?
Et oui, le MS-13, gang ultra-violent, actif aux États-Unis et en Amérique centrale. D'après la Maison-Blanche, c'est oui, Abrego Garcia a bien été affilié à ce groupe criminel, mais sur quels éléments repose cette affirmation ? On attend encore des preuves tangibles. Dans le quotidien salvadorien, la Prensa Grafica, on lit que ce processus judiciaire est en cours, mais qu'à la demande expresse des États-Unis, ce processus va rester confidentiel. Les professionnels professionnels du droit au Salvador, eux, veulent plutôt profiter de cette affaire pour plaider la cause de tous les prisonniers qui croupissent dans les geôles du pays. L'avocate pénaliste Roxana Cardona nous rappelle que depuis l'instauration de l'état d'urgence au Salvador en 2022, plus de 85 000 personnes ont été arrêtées de manière arbitraire et jetées en prison sans accès à leur dossier, sans conseil juridique, sans contact avec leur famille, au nom de la lutte contre les groupes criminels décrétée par le président salvadorien Nayib Bukele.
Revue de presse signée Vincent Sourio.
RFI, la radio del mundo.
Notre dossier du jour nous emmène au Pérou où les associations, les ONG s'inquiètent après la publication d'une nouvelle loi. Le Congrès vient d'adopter un texte présenté comme un moyen de limiter l'influence de l'étranger. Mais pour la société civile, c'est surtout un moyen de s'attaquer aux ONG. Une agression contre les défenseurs des droits humains, dit même la FIDH. Car désormais, les associations internationales ou celles qui reçoivent des fonds de l'étranger sont limitées dans leur capacité à lancer des actions judiciaires contre l'État péruvien. Reportage Martin Chabal.
Devant le ministère de la Santé à Lima, l'Assemblée Averde, l'Assemblée Verte, s'est réunie pour manifester sa colère. Ce collectif de femmes lutte aujourd'hui pour le droit à l'avortement thérapeutique chez les mineurs. Des groupes conservateurs tentent de limiter le recours à l'IVG à la maternité de Lima. Rocio Gutiérrez s'inquiète de ces nouvelles mesures.
Nous, ce que nous voulons, c'est que nos filles ne deviennent pas des mères. Au Pérou, chaque année, au moins 1000 enfants accouchent. Elles ont 10-14 ans. Et le Congrès remet en question le protocole pour ces filles qui ont été violées et qui se retrouvent enceintes.
Aujourd'hui, à travers son association, Rocio Gutiérrez peut se battre juridiquement pour défendre le droit de ces jeunes filles à un avortement légal. Mais elle a peur que ce ne soit bientôt plus possible depuis que le Congrès veut limiter l'influence de l'étranger.
L'une des conséquences de cette loi dite anti-ONG, c'est que par exemple, si une enfant se voit retirer le droit à l'accès à un avortement thérapeutique légal, nous, en tant qu'organisation, nous devons la défendre et dénoncer l'État. Mais ça, eh bien, on ne pourra plus le faire.
Parce que le Congrès a voté pour la modification de la loi sur l'Agence péruvienne de coopération internationale. Les associations seront maintenant soumises à des amendes si elles poursuivent l'État en ayant reçu des fonds internationaux. Et au Pérou, c'est le cas de nombreuses associations, comme celle de Rocio Gutiérrez, qui a parfois besoin de l'aide internationale pour faire valoir le droit à l'avortement de ses jeunes filles. Pour les peuples originaires et isolés du Pérou, c'est aussi un coup dur. Antolin Huascar Flores défend les paysans des peuples autochtones à travers la Confédération nationale agraire.
Las comunidades indígenas campesinas en el Perú.
Les communautés autochtones et agricoles du Pérou, on est vulnérables. Je parle des mines dans la partie andine, des entreprises pétrolières en Amazonie qui déforestent. Et quand on veut dénoncer tout cela, une organisation comme la nôtre n'a pas de fonds. On est obligé de recourir à la coopération internationale qui défend nos droits, le droit lié à notre terre et oblige l'État à respecter la Constitution.
Et aujourd'hui, si ces associations ne se plient pas à la loi et veulent traîner l'État en justice, elles risqueront une amende de près de 700 000 euros. Autant dire que c'est impossible à payer pour ces petites communautés. Sinon, ça sera la dissolution. Mais cette loi affecte aussi les poids lourds des ONG. Marina Navarro est la directrice d'Amnesty International au Pérou. Elle travaille notamment sur les victimes de violences policières lors des manifestations contre le pouvoir en 2023, où 49 Péruviens ont été tués.
Cette loi nous affecte beaucoup parce qu'on fait des rapports sur les violences que l'on fournit ensuite à la justice, que l'on met à disposition des enquêteurs. Mais avec cette loi, ça pourrait être interdit.
Elle compare la situation du Pérou à d'autres pays autoritaires d'Amérique latine. Certains articles auraient été inspirés, voire totalement copiés de ce qui se fait au Nicaragua ou au Venezuela, des pays connus pour leurs atteintes à la démocratie et à l'état de droit. Ces associations protestent contre la manière dont cette loi a été votée. Elles n'ont jamais été consultées pour débattre et la loi a été votée en une nuit, en une seule lecture, sans débat préalable. L'Agence péruvienne de coopération internationale devient un outil de censure à part entière, le projet d'un gouvernement péruvien de plus en plus autoritaire. Martin Chabal, Lima, RFI.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour l'actualité des Outre-mer françaises. Avec ce chiffre, 9,4 pour 100 000 habitants, c'est le taux d'homicide en Guadeloupe. Alors, c'est pire en Guyane. En revanche, ce taux est loin, très loin, devant la France métropolitaine.
Une triste réalité qui en cache une autre, tout aussi effrayante, le nombre de blessés par arme à feu ou arme blanche dans l'archipel guadeloupéen. Une réalité mise en évidence par la thèse de doctorat d'une étudiante en médecine. Eric Stimpfling.
Baptisée « Traumarme », la thèse de médecine soutenue par Marie Pasquette étudie les victimes d'agressions par armes à feu et armes blanches admises au service des urgences du CHU de la Guadeloupe entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. 5 années de données qui font apparaître les éléments suivants. La très large majorité des 1413 patients retenus sont des hommes âgés en moyenne de 30 ans. 401 ont été blessés par arme à feu, 1012 par arme blanche. La prise en charge médicale intervient en majorité durant la nuit et en fin de semaine, avec une pointe d'admission le samedi soir et plus particulièrement durant la période de décembre à février, puis celle de juillet-août. Les victimes d'armes à feu présentent le plus souvent des plaies aux membres inférieurs, alors que celles victimes d'armes blanches souffrent de blessures au niveau de la tête, du cou, ainsi qu'au niveau des membres supérieurs. Le taux de mortalité est de 12,5% pour les premiers et seulement 1% pour les seconds.
Direction la Martinique maintenant, avec du crabe et même de la langouste au menu d'un matoutou solidaire offert aux plus démunis hier, lundi de Pâques, sur le parvis de la cathédrale de Fort-de-France. Reportage Ronan Bonnec.
Au départ, nous avons commencé, nous étions deux, le coffre d'une voiture en face de la cathédrale de Fort-de-France. Et depuis, nous sommes organisés pour que nous puissions accueillir au mieux le nombre de nécessiteux qui a augmenté.
À l'initiative d'une femme qui souhaite rester anonyme, cette opération solidaire se renouvelle chaque année depuis 9 ans. Et lorsque Christine, que vous venez d'entendre, évoque l'augmentation de la misère dans la capitale foyalaise, les larmes montent. L'interview s'arrête. Fred, un des deux traiteurs qui a concocté le matoutou solidaire, poursuit.
On ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, quoi, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont plus besoin que nous-mêmes, quoi. Donc on doit leur faire plaisir, il y a un moment pour eux et il ne faut pas rater ces moments-là. Surtout, bon, nous sommes à la période de Pâques où que tout le monde va à la plage et eux, ils sont là, quoi. Il ne faut vraiment pas les oublier. On a voulu les faire plaisir. C'est l'amour de ceux qui n'en ont pas. Essayer de communiquer avec eux et puis de faire plaisir. C'est un plaisir pour moi de le faire, oui.
Cette opération citoyenne et solidaire entend se renouveler pour la fête des Pères et à l'occasion de Noël.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va se quitter avec de la musique. Sorongo de Susana Baca.
Dime sorongo, dime sorongo. Que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo, dime sorongo. Que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene. Con caracol, la trajeron los españoles en un barco carabela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en la plantación de caña nació el triste socavón.
Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo.
Machete y la guadaña, curió su mano morena, los indios con sus quenas y el negro con tamborel, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas.
Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo.
Oh,
Et c'est ainsi avec Susanna Baca que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par Valentin Blanc. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 11h, temps universel. Et tout de suite, c'est De Vive Voix sur Radio France Internationale. Très bonne journée.